Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une de l'économie ce matin, je vous le disais, donc c'est le pétrole en plein crash. Les prix du baril se sont effondrés de 30% dans les secondes suivant l'ouverture des marchés cette nuit en Asie. C'est vertigineux. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Le pétrole brut se négocie ce matin entre 30 et 34 dollars. On était autour de 45 vendredi. Et il y a un responsable, Augustin, c'est l'Arabie Saoudite qui lance une guerre des prix.
Oui, conséquence de l'échec des négociations avec la Russie vendredi. La demande mondiale en pétrole a fortement baissé à cause du coronavirus. Les Saoudiens voulaient donc diminuer l'offre pour équilibrer les prix. Les Russes ont refusé. Ils voulaient, eux, maintenir leur niveau de production et faire baisser les prix pour affaiblir leurs concurrents américains qui produisent du pétrole de schiste. Ce refus fait voler en éclats une alliance entre Russes et Saoudiens qui remonte à 2016. Et en réponse, l'Arabie Saoudite sort l'artillerie lourde. Au lieu de la baisser, elle augmente fortement sa production qui va dépasser les 10 millions de barils par jour et elle brade les prix avec des soldes jusqu'à moins 20% sur certains marchés. Des réductions de 4 à 6 dollars en Asie sur le prix de référence du baril de brut jusqu'à 7 dollars aux États-Unis. Là où les variations mensuelles se comptent habituellement en centimes. Objectif des Saoudiens, inonder le marché et reprendre des parts aux Américains, devenus premiers producteurs mondiaux grâce à ce pétrole de schiste. C'est le début d'un concours d'endurance qui risque d'avoir des conséquences très concrètes pour certains pays comme l'Algérie, l'Irak ou le Nigeria, qui ont une économie fragile dont les revenus dépendent du pétrole.
Merci Augustin Lefebvre. La chute des cours du brut n'en est peut-être qu'à ses débuts. Goldman Sachs, hier soir, révisait ses anticipations pour les semaines à venir. Parlons désormais d'un baril à 20 dollars dans les jours qui prochains. On parle donc là d'une menace existentielle pour la plupart des majors du pétrole qui ne commencent à gagner de l'argent qu'à partir de 50-60 dollars le baril. Ce matin, le pétrole entraîne vers le fond les places asiatiques. À Tokyo, le Nikkei perd actuellement 5,5%. Hong Kong, moins 4%. Shanghai, moins 1,5%. L'Asie, déjà sévèrement affaiblie par l'épidémie de coronavirus. En France, justement, grande réunion ce matin, 10h à Bercy. Trois ministres à la rencontre des grandes fédérations professionnelles qui livrent leur évaluation de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur leur activité. À cette heure, la France, on l'a dit, reste au stade 2, se cantonnant à des mesures visant à ralentir la circulation de la maladie, mais déjà les conséquences se font sentir. Céline Cajoulis.
Déjà 900 entreprises ont demandé à bénéficier du dispositif de mise au chômage partiel. Cela veut dire près de 15 000 salariés concernés et un coût estimé par l'État à plus de 50 millions d'euros. Un chiffre qui a doublé en seulement quelques jours. Principalement touchées les entreprises liées au tourisme, à la restauration, à l'hôtellerie, mais aussi au transport ou encore à l'organisation d'événements comme les salons professionnels. Mais le secteur du bâtiment pourrait lui aussi être très bientôt concerné car il y a de plus en plus de problèmes de livraison de matières premières. Alors en plus des mesures déjà mises en place comme le soutien à la trésorerie, l'étalement du paiement des impôts et des cotisations sociales, l'État a également demandé aux banques de soutenir les entreprises en difficulté. Le Crédit Agricole a par exemple déjà annoncé qu'il pourrait y avoir des reports de remboursement allant jusqu'à 6 mois et que certaines pénalités pourraient être supprimées. Les assureurs eux aussi se sont engagés à accélérer les prises en charge et les demandes d'indemnisation de leurs clients pour un montant estimé jusqu'à 100 millions d'euros.
Alors la Fédération nationale des transports de voyageurs. Elle a déjà été reçue vendredi à Bercy après les banquiers. La FNTV qui demande un fonds de garantie contre les faillites. Il pourrait y en avoir chez les autocaristes dans les semaines à venir. Écoutez son président Jean-Sébastien Barraud.
Ce que l'on a observé, c'est d'abord dans un premier temps une baisse du nombre de touristes étrangers en France. Et depuis le début de la semaine dernière, c'est une annulation quasi systématique de toutes les sorties scolaires. C'est plus de 95% des entreprises qui ont connu des baisses de commandes et pour certaines d'entre elles, c'est près de 80% du chiffre d'affaires qui a disparu. On a une entreprise sur deux qui craint pour sa survie à un horizon de quelques semaines. Et les plus petites d'entre elles sont extrêmement fragilisées et la situation est aujourd'hui très préoccupante.
Voilà, Jean-Sébastien Barraud, président de la Fédération nationale du transport de voyageurs. Voilà pour la situation en France. Pendant ce temps-là, en Allemagne, Berlin annonce ce matin un paquet de mesures assez similaires à celles prises en France pour soutenir l'économie. Recours facilité au chômage partiel, des prêts de trésorerie, ainsi qu'une enveloppe de près de 13 milliards d'euros sur 4 ans pour des investissements d'infrastructures infrastructures. En Italie, des mesures de confinement, vous l'avez compris, donc couvriront une vaste zone au nord du pays, de Milan jusqu'à Venise, jusqu'au 3 avril. La Commission européenne, par ailleurs, a écrit à Rome samedi. Elle prendra en compte les dépenses exceptionnelles décidées en réponse à l'épidémie au moment de mesurer le niveau du déficit italien de 2,2% prévu cette année. Le déficit italien pourrait passer au moins à 2,5%. En Chine, la situation sanitaire, elle, s'améliore. 22 décès seulement ces dernières 24 heures, à peine 40 nouvelles contaminations. Le Disneyland de Shanghai, d'ailleurs, rouvre partiellement ce matin. Il était fermé depuis le 25 janvier. On a aussi confirmation que le commerce s'est écroulé depuis le début de l'année. Selon les douanes chinoises, les exportations ont reculé de plus de 17% depuis le 1er janvier. Enfin, cet dernier chiffre, l'ONU anticipe aussi une chute des investissements directs à l'étranger dans le monde cette année, de l'ordre de 5 à 15%, essentiellement en Asie.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
6h44 dans l'actualité également ce matin. De nouveaux soucis pour Uber. La semaine dernière, la Cour de cassation requalifiait en salarié un de ses chauffeurs indépendants. Eh bien demain, c'est une fédération de taxis, les taxis de province, qui réclamera en référé devant le tribunal de commerce de Paris l'arrêt pur et simple de l'activité d'Uber en France. Émilie Vallès.
Il faut qu'Uber respecte la réglementation et ce n'est pas le cas, explique Jonathan Belaïch, avocat de la Fédération française des taxis. De province.
La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que Uber était un opérateur de transport et pas une plateforme de mise en relation. Vous avez la Cour de cassation qui a confirmé que Uber faisait bien une prestation de transport. De ce fait, la plateforme a l'obligation de s'immatriculer au registre des exploitants VTC. À défaut d'immatriculation à ce registre, ça constitue de la concurrence déloyale, devra cesser ses activités en France.
Une période difficile donc pour Uber en France et pas seulement pour Joël Azan, spécialiste des mobilités urbaines Boston Consulting Group. La plateforme est confrontée surtout à deux problématiques, la question du droit social et celle de la sécurité des opérations.
Les attaques qui remettent en cause le modèle sont assez nombreuses. On en a eu aux États-Unis, en Angleterre, on en a eu en Allemagne. Ça vient s'ajouter à un certain nombre de pays où ils ont dû stopper leurs opérations, la Chine, l'Inde ou la Russie. Le modèle consistant à devenir un leader mondial du transport sans gérer de chauffeurs et sans gérer de véhicules, cette utopie n'arrivera pas.
D'ailleurs, pour cette expert, le demi-échec de l'introduction en bourse d'Uber témoigne de ses difficultés.
En bref, ce nouveau pépin pour Boeing aussi, selon le Wall Street Journal, l'agence américaine de l'aviation, la FAA, envisagerait, avant de réautoriser l'avion à voler, d'exiger une révision du câblage électrique de tous les 737 MAX déjà produits. On parle de plus de 800 appareils. Le câblage actuel ne respecterait pas les normes de sécurité. Et puis le Liban, en défaut de paiement, Beyrouth n'est pas en mesure de rembourser pour 1,2 milliard d'obligations en dollars qui arrive à échéance ce lundi. La dette libanaise atteint 92 milliards de dollars, soit 70% de son PIB. La bourse, pour terminer, je vous redonne la principale information du jour. C'est la panique sur le pétrole ce matin. Ça a des répercussions sur les marchés asiatiques. Le WTI américain et le Brent chutent ce matin de 25%. À Tokyo, le Nikkei, moins 5,5%. Sydney vient d'ouvrir à l'instant, moins 7,33%. Présage d'une journée difficile pour les marchés européens qui clôturaient en forte baisse vendredi. Le CAC 40 cédait 4% à la clôture vendredi soir. Pire chute depuis le Brexit, avec des valeurs littéralement massacrées. Je vous donne les bancaires, par exemple. Société Générale a perdu 6% vendredi. En deux semaines, la Banque de la Défense a perdu 31% de sa valeur. Enfin, à Wall Street, le Dow Jones cédait, lui, autour d'1%, 25 864 points. Le 10 ans américain traditionnel valeur refuge n'en finit plus de baisser. Il est ce matin à 0,65%. Il était à 1,9 il y a un mois. 6h47, dans un instant, on va s'intéresser au César du jeu vidéo. Ne dites pas les Césars, mais les Pégases. 6h47.